J'ai commencé.
Allez, tout le monde rentre. Tout le monde s'assoit.
Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez?
C'est fort, on n'entend rien.
M'entendez-vous?
Oui.
Ouais. Ah, bien. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue pour cette interview fantasmatique de Sophie Tam. Sophie Tam, l'auteur.
Bravo.
Sophie Tam, merci. Bien. Alors, vous connaissez sans doute Sophie Tam, l'auteur de Sexuel Transfert, n'est-ce pas?
Absolument.
Et vous savez tous qu'aujourd'hui, Sophie Tam est parmi nous pour Archéologie d'une faille, son nouvel opus. Alors, que dire sur Archéologie d'une faille, Sophie? Eh bien, Archéologie d'une faille est une œuvre de Sophie Tam aux éditions Incognito. Vous voyez tous, 13.5x18, dominante verte. Voilà, vous pourrez voir un magnifique collage de René Galassi. À l'intérieur aussi, un proverbe colombien. C'est écrit en police Garamond, encre noire sur page blanche. Alors, Sophie, que dire Archéologie d'une faille? Enfin, moi, par exemple, j'ai lu les trois premières pages et je dois te dire que, définitivement, c'est mon livre de chevet. Et tout de même, Sophie Tam, si je puis me permettre, la fin est un peu déprimante. Une page blanche, qu'est-ce que ça représente? L'angoisse de l'auteur, votre vision de la vie? Autre chose peut-être? Bon. Eh bien, nous pouvons débuter la première partie de cet entretien fantasmatique, si vous le voulez bien.
Oh oui!
Alors, Sophie Tam, première question.
Ça peut paraître un peu stupide ce que je vais dire, mais les lecteurs auxquels je m'adresse sont des gens qui lisent. Donc, parce que ce que j'essaie de transmettre dans ce livre, même si c'est pas au départ vraiment fait exprès, mais ce que j'essaie de transmettre, c'est un peu l'ambivalence de la complexité de l'humain. Donc c'est vrai que bon, ça se résume pas à la première de la couverture, la quatrième de coup, la tranche et voilà. Donc il faut vraiment lire le livre. Donc je mes lecteurs, ce sont des gens qui vont lire le livre.
Dame. Seconde question.
En fait, c'est un peu délicat. C'est-à-dire que, oui, d'un certain côté, on peut dire que. Que mes livres sont politiques, mais si vous voulez, il faut revenir un peu aux années 70, le féminisme, etc. l'époque où on a dit l'intime est politique. Les féministes ont dit ça dans les années 70. L'intime devient politique. Donc c'est vrai que ce livre est quand même très centré sur l'introspection et la psychanalyse, l'introspection, l'intérieur. C'est quelque chose qui est peut-être un peu féminin. Je pense que la démarche féminine peut être d'aller de l'intérieur à l'extérieur. Quand les hommes, c'est plutôt d'aller peut-être de l'extérieur et de rester à l'extérieur.
Enfin, ils rentrent, ils sortent, les hommes.
Donc, à ce niveau-là, on peut certainement dire que si vous voulez, l'intime, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur, la psychanalyse, la psychologie, etc., est aussi lié à des problèmes de société. Donc là, dans ce livre, on parle de l'art, de la place de l'artiste dans la société, de la responsabilité de l'artiste dans la société, de toutes ces choses-là. C'est une interrogation qui est en même temps intérieure à l'auteur, mais qui en même temps se confronte à la société.
Une auteure brillante. Sophie Tarn. Oserais-je une troisième question?
Vous savez, ça tombe très bien parce qu'en fait j'avais pratiquement prévu la question. J'ai trouvé une citation qui, je trouve, correspond très bien à ce que vous me demandez. En fait, c'était une citation de Frédéric Bedbeger. Je sais pas comment on dit. Bedbeger.
Je connais.
Bref. Enfin, vous voyez qui je veux dire, quoi.
Vous voyez.
C'est une citation qui est extraite de la préface d'un roman de Henry Miller et qui, je trouve, se caractérise très bien mon écriture, justement. Donc voilà ce qu'il dit. En Europe, on ne cherche pas à ce que l'écriture soit forcément utile. En Amérique, ils veulent que les romans transforment votre existence. Ils veulent vous attraper par la chemise et vous secouer comme un prunier. Les écrivains américains espèrent toujours que leurs lecteurs vont descendre dans la rue et se mettre à gueuler comme des putois qu'ils sont heureux d'être en vie ou que leur femme est une salope ou qu'ils ont soif à en crever. Voilà, j'aime bien cette citation parce que je trouve que ça s'applique très bien à mon type d'écriture. Parce que, en fait, mon écriture, c'est une écriture performative, c'est-à-dire que je trouve que ça influe sur la vie et la réalité. C'est-à-dire, mon écriture influe sur la réalité influe sur l'écriture, c'est une espèce de dialogue constructif qui se fait. Et voilà.
Merci Sophie, une auteure entre Miller et Bedbeger. Sophie Tarn. Question numéro 4.
Winnie Guerra.
Ah, je le savais.
C'est vrai que les auteurs. Je suis pas très normalement dans les auteurs contemporains, franchement.
Non, vous êtes.
Voilà, à part moi. Mais donc moi, je suis plutôt dans les auteurs classiques. Mais c'est vrai que j'ai découvert cet auteur qui est une auteure qui a mon âge, qui vit à Cuba. Et sa thématique, c'est la thématique de l'enfermement. En fait, elle raconte un peu son existence sous la dictature de Fidel Castro. Son premier livre s'appelle Tout le monde s'en va. Et en fait, elle raconte l'histoire de tous ces gens, tous ces intellectuels, ces artistes, ces poètes qui sont partis de Cuba. Et elle est restée seule avec sa mère, coincée parce qu'elle ne pouvait pas partir. Et donc, c'est ce qu'elle raconte dans ce livre, c'est justement l'enfermement sous la dictature. et elle décrit très bien donc cette voilà cet enfermement qui est en même temps un enfermement politique et en même temps un enfermement psychologique puisque puisqu'on n'a pas la liberté d'expression. Et je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre, cette écriture, cette thématique aussi, ce qui m'a un peu posé des problèmes au début, mais enfin, c'est une auteure qui a énormément de succès en France, Wendy Guerra, et donc je pense que c'est la thématique de l'enfermement, c'est une thématique qui doit parler à beaucoup de monde.
Merci Sophie Tam. Sophie Tam. La question qui me brûle les lèvres est la question numéro 5.
Je comprends pourquoi vous me posez cette question en fait.
Quelle est intelligente.
C'est. Non mais je comprends hein, parce que c'est vrai que la fin est un peu abrupte.
Ah,
c'est vrai. Je l'ai pas prévu comme ça en réalité. C'est pas du tout comme ça que j'avais conçu. Mais après, quand je l'ai relu, tout ça, c'est vrai, je me suis dit quand même, ça finit un peu de manière abrupte. Mais je vais vous dire pourquoi, très honnêtement. C'est parce que j'ai une grande confiance en mes lecteurs. Et je sais que c'est vrai, quelque part, avec ce livre, je les amène un peu. À la fin, au bord d'un abîme, ça, c'est, je ne peux pas vraiment le nier. Mais je suis sûre que soit ils vont trouver une issue de secours, soit ils vont se mettre à l'escalade et apprendre à descendre dans la faille, soit ils vont apprendre à se jeter dans le vide et à voler. Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue quand j'ai écrit ce livre et que je l'ai publié. Vous voyez, j'ai eu l'impression de me jeter dans le vide et d'apprendre à voler au vol, hein, si je puis me permettre ce mot. Voilà, donc c'est une écriture qui est un peu collaborative, c'est vrai. Je veux dire, mes lecteurs ont aussi leur interprétation, leur subjectivité, etc. Je suis persuadée qu'ils vont trouver leur suite à eux. Mais bon, enfin, ça ne répond pas vraiment à votre question. C'est vrai que quand j'ai écrit Sexuel Transfert, j'avais déjà écrit Archéologie d'une faille, dont la suite existait déjà. Voilà. Là, je, pour être honnête, je ne sais pas s'il va y avoir une suite. Voilà. Mais voilà.
Merci Sophie Tam. Sophie Tam, dont les lecteurs sont un peu des base jumpers. Donc, Sophie. Je regarde mes notes et. Oh! Question numéro 6.
Écoutez, je veux bien, mais est-ce que ça vous ennuierait plutôt de le lire vous-même, l'extrait? Parce que moi j'aime bien écrire tout ça, mais lire, c'est pas. Enfin, lire à voix haute, je veux dire, c'est pas mon truc. Alors, si ça vous dérange pas, si vous voulez bien lire l'extrait.
Pas du tout, mais je. Avec plaisir, Sophie Tam. J'arrive à la NPE directement du conservatoire, dans une tenue désinvolte. Le distributeur de tickets est en panne. Je m'assieds. Un jeune ex-cadre dynamique arrive l'air affairé, me toise assez méprisamment et s'installe à une autre table. Au bout de quelques minutes, une femme brune sort d'un bureau. Je me souviens d'elle car, lors d'un entretien précédent, je suis convoquée tous les 6 mois pour un suivi obligatoire. Elle m'avait lancé avec humour que le travail, c'est comme la bicyclette. Ça ne s'oublie pas. J'avais toute la vie devant moi pour travailler et par conséquent, il était inutile de s'affoler. J'avais bien aimé cette approche originale. L'ex-jeune cadre dynamique, sans un regard pour moi, se précipite vers la femme. Je suis prête à le laisser passer, je ne suis pas pressée. Elle est finie, la bataille contre les jeunes et les vieux cadres dynamiques. Elle appartient à ma vie antérieure. Vous étiez là avant, non ? Me demande la femme. Oui. Alors allons-y. Je passe souriante devant l'ex-jeune cadre dynamique qui se rassied en soupirant. Depuis le début de mon chômage, je me suis composé un rôle pour la NPE, qui me permet de continuer mes activités sans être inquiétée. Avec le salaire et les qualifications que j'ai, je n'ai pas grand-chose à craindre, car je ne retrouverai jamais le poste comme le précédent dans la région. Non. Mais la femme consulte mon dossier dans l'ordinateur. Je joue la jeune femme penaude plutôt désespérée, comme je devrais l'être après 2 ans de chômage et même pas un entretien d'embauche. Je viens car j'ai peut-être trouvé un emploi à Kokonao comme gestionnaire de patrimoine à mi-temps. Et je voulais savoir s'il existe des aides à l'embauche pour chômeurs de longue durée, pour l'inciter à m'embaucher. Non, ça n'existe plus. Mais la femme me booste. Avec les diplômes, l'expérience et les langues que vous parlez, vous n'avez pas besoin d'aide à l'embauche. Il vous prend tel quel. C'est une opportunité pour lui. Je la sens sincèrement révoltée par ma situation et je me trouve coupable de lui mentir. Il ne faut pas vous isoler. Vous avez l'air déprimé. Est-ce que vous avez fait des ateliers d'accompagnement de recherche d'emploi ? J'invente une vague excuse. Peu à peu, la conversation prend un tour plus personnel. Nous commençons à parler des hommes. Elle comprend que je suis célibataire. Bon, au fond, vous n'êtes pas plus mal comme ça. On a beau avoir des enfants, un mari, on est toujours seul. Moi, si je n'avais pas rencontré mon mari, je crois que je serais restée seule. Puis nous bifurquons sur l'adultère. Si les femmes disaient non, il n'y aurait plus d'adultère. Mais les hommes savent que les femmes disent oui. Vous, peut-être, vous allez dire non. Elle me regarde droit dans les yeux. A-t-elle vu que j'ai dit oui, justement, à Badoul ? En dépit de mon éthique, au fond, si proche de la sienne. Bon, la prochaine dira oui. Enfin, elle aborde caustique son chapitre de prédilection, forcément, les cadres au chômage. Quand un cadre de 55 ans arrive dans mon bureau, je peux dire en 2 secondes s'il est toujours avec sa première femme ou s'il s'est remarié avec une autre. Ah bon ? Le cadre qui est toujours avec sa première femme, il s'assied tranquillement. Il a travaillé toute sa vie, il a ses enfants, sa femme. Il envisage de passer sa pré-retraite, puis sa retraite avec ses indemnités, et s'il ne peut retrouver du travail, de profiter de sa famille. Celui qui s'est remarié, il arrive, il s'assied nerveusement sur un coin de chaise et il me harcèle. Vous n'avez pas de poste pour moi, là, dans votre ordinateur, vous comprenez ? J'ai des charges, ma voiture, ma maison. Lui aussi, il a travaillé toute sa vie. Souvent, il a rencontré sa première femme jeune, ou même pendant qu'il faisait ses études. Elle a abandonné ses études pour lui. Il a bossé comme un malade. Elle l'a soutenu au début, quand c'était difficile. Elle a mis sa vie entre parenthèses. Ils ont fait des enfants. Et puis, vers 40 ans, il en a assez du vieux cul de sa femme. Et il est au pic de sa carrière. Tout le monde lui lèche les bottes en permanence. Rien ne l'arrête. Il rencontre une femme qui a 10 ou 20 ans de moins que lui. Et il largue sa première. C'est tellement plus excitant. Sauf que cette femme, c'est pas pour lui qu'elle est avec lui, c'est pour son fric. Et quand il est foutu à la porte, Elle ramène sa poire. Elle a ses exigences, style de vie, voyage, voiture de luxe, bijoux, etc. Elle lui met la pression. Il sent bien qu'il a intérêt à retrouver un boulot de dardard. Et je leur demande, vous avez essayé avec vos relations?
Vous comprenez les relations, blabla, mais dans votre ordinateur, vous n'avez pas de poste pour moi?
Ces relations, elles l'ont largué à la minute où il a cessé d'être intéressant et d'avoir du pouvoir. Là, il se rend compte qu'il était entouré de gens exclusivement intéressés par son fric et son pouvoir. Sa jeune femme menace de le larguer. Il est aux abois. Alors, moi, je leur dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Que les gens vous aimaient pour vous? Vous leur dites ça vraiment? Je demande enchantée. Mais oui, je leur dis ça. Je ne suis pas là pour leur lécher le cul. Et comment ils réagissent? Comme des gros bébés, effondrés. Ils voient enfin la réalité en face et c'est un choc terrible pour eux. Je suis ravie de constater qu'au sein même de ce temple social du capitalisme existe un bastion d'indépendance intellectuelle. Comme mon ami Opal, exploité dans son entreprise privée qui un jour a rétorqué à sa supérieure, il lui soutenait que l'entreprise n'est pas humaine. Mais l'humanité, c'est toi qui l'amène avec toi au bureau tous les jours. Oh, tous ces petits électrons libres répartis dans toutes sortes de strates. Finalement, ce sont eux, sur le terrain, qui créent une société meilleure. Pas forcément les artistes. Il est presque l'heure de fermeture de la NPE. Nous avons discuté une bonne heure. Au moment où je m'engage vers la sortie, non sans l'avoir chaleureusement remercié, un cadre quinquagénaire chauve se précipite essoufflé sur la conseillère. Vous pouvez encore me recevoir? La femme me sourit. Elle cligne même de l'œil du côté opposé au cadre. Je lui rends un sourire complice.
Oui, j'ai encore 10 minutes. Allons-y.
Merci pour le cœur. Ceci conclut donc notre première partie de l'interview. Alors, deuxième partie de l'interview?
Oh oui.
Excusez-moi, un problème de retour. Deuxième partie de l'interview?
Oh oui. Oui.
Problème d'oreillette. Alors, Sophie Tam, thé ou café?
Thé.
Mer ou montagne?
Mer.
Pourquoi?
Parce que...
Ceci conclut l'entrevue fantasmatique de Sophie Tam. Alors, faites-vous dédicacer Archéologie d'une faille par son auteur pour la modique somme de 23 euros.
Eh oui,
13 feuilles par 18, 2000 ans de verte, je vous le rappelle. Bien, alors, écoutez, Sophie Tam, quelque chose à rajouter?
C'est fini.